Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campuslille.com et DAB+. Et vous allez écouter l'émission Angle d'Attaque. Angle d'Attaque, A2TAC, c'est une association d'éducation populaire et une association pour une taxe sur les transactions financières. Et donc aujourd'hui, une émission un peu particulière, Christian ?
Oui, une émission particulière en effet, Florent. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons pas vous proposer l'émission prévue et à laquelle nous tenons beaucoup, les 80 ans de la sécurité sociale. Sécurité sociale dont nous savons tous qu'elle est en danger aujourd'hui sous l'ère Macron, ce qui ne nous a pas empêchés, attaque avec d'autres associations, à participer il y a 10 jours à l'organisation d'une soirée consacrée aux mêmes 80 années. Didier, tu te rappelles le nom de l'intervenant ?
Non, c'était Victor Duchesne.
Victor Duchesne, quelqu'un de vraiment très très chouette. Moi, j'y étais pas, moi j'étais en vacances.
Une excellente intervention d'ailleurs.
Qui a vraiment emmené les suffrages de tout le monde. Ludovic m'a dit la même chose, Quentin m'a dit la même chose. Donc vraiment quelqu'un de grande qualité, capable de répondre à toutes les questions les plus pointues en plus. Il a impressionné pas mal son monde. Donc aujourd'hui, empêché de vous proposer un direct, nous vous proposons une rediffusion. C'est pas l'habitude, mais c'est comme ça. Mais ce ne sera pas n'importe laquelle, à un moment où toutes les attentions se portent sur l'invasion d'Israël en Iran, j'avais envie de dire une opération spéciale, et le conflit inévitable qui s'ensuit, nous proposons de vous rappeler qu'on continue de mourir à Gaza sous les bombes israéliennes et sous les balles des militaires israéliens. Une émission dans la suite, donc, d'une certaine façon, de la marche d'hier entre Seclin et Lille et d'aujourd'hui à Roubaix, marchons contre le génocide à Gaza. Pour cette émission, notre invité est Anthony Dutemple, représentant de Première Urgence Internationale et qui a vécu à Gaza. Rapidement, j'ai proposé à... je sors un peu du contexte. J'ai proposé à Anthony de venir présenter le film From Ground Zero que nous allons projeter avec la FPS en octobre à l'Univers. On en reparlera évidemment. Anthony a décliné en me faxant ceci. Merci beaucoup Christian, je suis enthousiaste de partir en Afghanistan sur des enjeux d'accès aux soins pour les femmes. Que voulez-vous que je réponde ? J'ai répondu quand même, entendu Anthony, que faut-il te souhaiter ? Tu sais très bien ce que tu fais et ce à quoi tu t'engages. Reviens-nous, ça te va ? On écoute Anthony. Un sujet dont on parle certes, mais pas encore assez selon nous, surtout dans les médias mainstream, où le parti pris est flagrant, des mainstream donne un peu la nausée pour qu'ils s'informent un peu plus sur le sujet. À Attaque, nous avons choisi notre camp, et figurez-vous que ce n'est pas le même que les 10 médias mainstream des 10 milliardaires. Jeu de mots. Et celui qui nous accueille aujourd'hui, ce midi, a choisi le sien aussi de camp, et de plein engagement d'ailleurs, y compris sur le terrain. Il est le représentant de Première Urgence Internationale, celles et ceux qui n'ont pas été stoppés par une panne de métro jeudi soir n'ont pas pu assister au film Northerland que Anthony Dutemple a présenté. Anthony, merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise aussi donc que tu es membre des Amitiés Lille Naplouse, que nous saluons au passage, et de la LDH. Tu es donc en pays de connaissance ici, autour de cette table. Merci donc de te présenter un peu plus. Et un peu plus que ces trois cartes de visite là que j'ai dit. Et dis-nous surtout, quelle est cette organisation non gouvernementale dont j'ignorais jusqu'au nom avant d'être mis en relation avec toi ?
Merci.
Et par Geneviève Carré d'ailleurs, qu'on salue. Ouais.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, donc je suis travailleur humanitaire depuis une quinzaine d'années. Tu travaillais donc avec Première Urgence Internationale. Première Urgence Internationale, c'est une ONG qui travaille dans une vingtaine de pays. Et donc j'ai travaillé en Afghanistan, en Irak, en Jordanie et en Palestine dernièrement. Donc j'étais en Palestine ces 5 dernières années. On travaille donc sur l'aide humanitaire d'urgence auprès des victimes civiles de conflits, de catastrophes naturelles, et aussi tout ce qui est relance économique, santé, santé mentale, santé mère-enfant. Surtout.
Ah oui.
Donc voilà, ces cinq dernières années, donc, j'étais en Palestine, je suis rentré de Palestine il y a un an. En Palestine, première urgence internationale et opérationnelle depuis plus de 20 ans, sur place, avec des bases humanitaires à Naplouse, Ramallah, Jérusalem, Hébron et Gaza également.
Gazaville alors.
Oui, Gazaville, sachant que tout le territoire de la bande de Gaza est couvert par l'aide humanitaire de première urgence internationale avec des activités à Ran Younis, à Rafah, à Beit Hanoun, Beit Laya, au nord, enfin voilà, sur l'ensemble de la bande de Gaza. En Palestine, il y a deux piliers. Il y a un pilier urgence pur où l'ONG, donc on a une cinquantaine de collègues palestiniens sur place. Actuellement, j'ai 12 collègues palestiniens qui sont toujours dans la bande de Gaza. Qui, on en reparlera, hein, mais qui ont été déplacés en moyenne 6 à 7 fois depuis plus d'un an. Et donc, un pilier urgence où on vient en aide aux victimes de la violence des colons sur l'ensemble de la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est incluse. Donc, c'est les équipes de première urgence qui sont tout de suite, qui interviennent tout de suite après les attaques, donc ouais, opérationnelles. Donc, on a un système d'alerte avec les communautés, avec les villageois. Et donc, grâce à ce système d'alerte, les collègues peuvent intervenir. Notre objectif, c'est de s'assurer que les Palestiniens puissent rester, vivre et travailler sur leur terre, particulièrement en zone C. Et on en reviendra aussi. Zone C, c'est 60% de la Cisjordanie occupée, qui est 100% sous contrôle israélien. C'est là où se trouvent les colonies illégales qui grossissent, qui grandissent en toute impunité depuis des années. Et donc, les colons qui vivent illégalement dans ces colonies attaquent les Palestiniens pour faire en sorte que les Palestiniens fuient, partent, et garantir que les colonies continuent à s'agrandir et à s'accroître. Donc nous, on intervient pour s'assurer que les Palestiniens aient une protection et puissent rester sur leur terre, surtout en zone C, en Cisjordanie. Et on intervient dans la bande de Gaza, surtout auprès des pêcheurs et des fermiers qui sont impactés par la mise en place des zones d'accès restreint. C'est-à-dire, c'est l'armée israélienne qui tire le long de la barrière avec Israël et aussi en mer. Donc il y a des zones de pêche où les pêcheurs peuvent naviguer entre 6 et 10 000 nautiques, alors que bon, les poissons sont bien au-delà.
Oui, j'avais vu ça, on est passé de 15 000 nautiques à 9 000 nautiques et à 6 000 nautiques maintenant.
Voilà. Exactement. Donc il y a ces zones d'accès restreint qui sont en mer et sur terre, et cette zone d'accès restreint, elle est mise en œuvre de manière illégale, hein, avec des tirs de l'armée israélienne envers les civils palestiniens. On en a beaucoup parlé, si vous vous souvenez, en 2018, un peu 2019, avec la grande marche du retour. Avec les manifestations le long de la barrière, où il y a eu énormément de blessés palestiniens. Et donc, c'est une zone aussi qui est importante en termes de souveraineté alimentaire, puisqu'il y a une telle densité de population dans la bande de Gaza qu'en fait, la souveraineté alimentaire est garantie par des terres agricoles qui se trouvent le long de la barrière avec Israël. Et puis, bien sûr, la pêche. Mais donc ça, c'est un enjeu pour nous d'intervenir là. Donc c'est un pilier urgence assez fort qui est cohérent entre la Cisjordanie, violence des colons et la bande de Gaza avec les tirs au quotidien. Et puis un pilier, on va dire, plus long terme avec du soutien psychosocial. Comme vous l'imaginez, la violence des colons, les harcèlements, les attaques quotidiennes ont un impact fort.
Vous la subissez, la violence des colons ?
Ah oui, on l'a subi. Alors, moi, aujourd'hui, j'essaie de me faire le porte-parole de mes collègues palestiniens. Je les ai appelés cette semaine, j'ai quelques données. Je veux pas on peut inonder de données, mais moi, je suis très légitime pour parler des besoins humanitaires qui sont générés par une occupation illégale. La voix des Palestiniens, on les entend pas beaucoup, malheureusement, alors que c'est facile. Moi, je suis en contact avec Gaza tous les jours. Donc, en fait, c'est très facile d'avoir contact avec les Palestiniens et d'être en contact avec eux. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être à la hauteur, de faire porter leur voix et ce qu'ils m'ont donné comme information à la situation sur place. Moi, je peux témoigner aussi de la situation, de la dégradation de la situation ces cinq dernières années où j'y étais, jusqu'en novembre 2023, avec une violence des colons qui s'accentue de manière infernale et qui a un impact, bien sûr, sur nous, travailleurs humanitaires, puisque notre accès est de plus en plus compliqué.
Alors, moi, comme je t'ai dit au début, je n'avais jamais entendu parler de cette association, mais comment est-elle aussi peu connue? Ou alors...
Elle est...
On t'invite pas à TF1, par exemple?
Non, on m'invite pas à TF1. Mais on m'invite à RFI, tu vois, donc quand même. On m'invite à RFI. Mais alors, elle est peu connue parce que c'est déjà une volonté. La philosophie, c'est que toutes les ressources aillent sur le terrain. Donc il y a une volonté d'être au plus proche des populations. Et donc, toutes les activités, les ressources et l'énergie est mise pour délivrer de l'aide humanitaire très opérationnellement avec les communautés, avec les partenaires locaux. Donc on ne fait pas de campagne, voilà, on ne fait pas de campagne, etc. Et puis je pense qu'aussi, il y a un côté aussi de... Voilà, de, si on est là, moi je réponds. Et un de mes boulots, c'est de faire du plaidoyer. Donc, quand on cherche bien, en fait, on peut nous trouver. Et moi, je réponds présent à chaque fois que je peux, bien sûr, pour porter la voix de ce qui se passe sur le terrain en Palestine. L'ONG, en fait, a été créée au début, c'était Aide Médicale Internationale. C'était donc des French Doctors qui ont créé AMI, Aide Médicale Internationale en Afghanistan. En 79, donc c'était voilà l'époque. Vous vous souvenez des French Doctors, c'est vrai, qui passaient la frontière avec le Pakistan.
Bien après le Biafra.
C'était... Exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc ces French Doctors ont créé Aide Médicale Internationale en Afghanistan, avec aussi cette volonté justement de pas faire de campagne, de com. En disant on n'est pas Médecins Sans Frontières, on respecte ce que fait Médecins Sans Frontières. Nous, on est des médecins français. Par contre, on veut rester sur le terrain. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça a été créé. Ça a fusionné ensuite en 2011 avec Première Urgence, et donc c'est devenu Première Urgence Internationale. D'accord. Avec la moitié des opérations sont de la santé, soutien à la santé, santé primaire, santé mère-enfant, santé mentale. Et l'autre moitié des opérations, c'est assainissement, eau, construction, sécurité alimentaire, nutrition.
Donc les auditrices et les auditeurs de Radio Campus et d'Angle d'Attaque apprécieront que nous avons une voix assez rare sur les, sur les ondes aujourd'hui. Bien, oui, alors effectivement, tu commences à développer le travail de tes collègues que tu as au téléphone régulièrement. Donc, oui. Et disent quoi ? Alors, est-ce que vous êtes poursuivi par l'armée ou est-ce que vous êtes respecté par l'armée israélienne à Gaza ? Est-ce qu'ils sont respectés ? Est-ce qu'ils sont apparents ? Ils ont une chasuble PUI ou...
Ah oui, on est toujours visible. On est toujours visible. On a une chasuble blanche marquée Première Urgence Nationale, donc on est visible. Nos sites humanitaires sont aussi les coordonnées GPS de nos sites humanitaires sont partagées avec l'armée israélienne. Donc ça fait partie des protocoles parce que il y a une obligation de la force occupante de protéger et de faciliter l'aide humanitaire. Oui. C'est une obligation en droit international. Et les objets humanitaires sont des objets protégés en droit international. Sauf que malheureusement, on le voit bien, nos bureaux qui étaient dans la ville de Gaza, dans la zone verte, avec un toit marqué UN, United Nations en bleu, ont été bombardés. On voit que les deux tiers des écoles de l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont été bombardés. On voit qu'il n'y a aucun lieu sûr et qu'il y a une totale impunité, même sur les biens humanitaires.
Alors, combien de personnes donc du PUI sur Gaza, dans les lieux, à peu près partout, j'imagine ?
Oui. Alors actuellement, j'ai 12 collègues palestiniens dans la bande de Gaza. Après le 7 octobre, on a loué une maison à Rafah. Donc l'ONG a loué une maison à Rafah. On avait des panneaux photovoltaïques qu'on a installés pour permettre à nos collègues et à leur famille d'être...
Oui, parce qu'ils sont palestiniens.
Oui. On était quelques expatriés. J'ai un collègue français qui était à Gaza au moment du 7 octobre et qui a été ensuite évacué vers le mois de décembre. Donc il est resté quand même plusieurs semaines coincé dans la bande de Gaza. Donc actuellement 12 collègues, ils ont été déplacés en moyenne 7 fois. Depuis plus d'un an. Actuellement, certains sont à Ran Yunis, à Deir el-Bala. Donc Deir el-Bala, c'est un camp humanitaire. Il faut savoir qu'il y a 80% de la bande de Gaza qui est sous ordre d'évacuation. Des ordres d'évacuation qui sont toujours actifs depuis octobre 2023. Vous imaginez presque 2,5 millions de Palestiniens sur 80% du territoire qui est sous ordre d'évacuation toujours actif. Et entre le 11 et le 14 décembre, donc là, c'était la semaine dernière, il y a eu, même dans ces zones, normalement, sous zone humanitaire à Deir el-Bala, à Ran Yunis, il y a encore eu 69 000 déplacés, rien qu'entre le 11 et le 14 décembre, dans des zones qui sont normalement protégées, qui sont normalement des zones humanitaires. Donc on voit que les déplacements continuent, même il n'y a plus aucun lieu sûr dans la bande de Gaza, on savait déjà, mais c'est assez affolant. Et puis surtout, il y a depuis deux mois, depuis 70 jours exactement, 75 000 personnes qui sont bloquées dans le nord de la bande de Gaza, sans accès à l'eau, où les convois humanitaires ne peuvent plus entrer. Donc il y a actuellement 75 000 personnes sans électricité, sans eau, sans soins, sans nourriture, qui sont complètement coincées au nord de la bande de Gaza.
Et que peut faire l'aide humanitaire, là ?
Alors là, on est complètement...
Ils sont aussi coincés que les
On est complètement coincés. Nous, on a quelques camions qui sont à la frontière égyptienne, Rafah côté égyptien.
Ouais.
Mais on est complètement bloqués. L'aide humanitaire n'est pas facilitée par la force occupante, encore une fois. Hein. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui dit que la force occupante a une obligation de protéger et de faciliter l'aide humanitaire auprès des populations occupées. Entre le 1er et le 16 décembre, donc vous voyez, sur les 15 premiers jours du mois de décembre, il y avait 339 convois planifiés qui ont été coordonnés avec l'armée israélienne. Sur ces 339 convois planifiés, seuls 30% ont été facilités et accordés. 42% ont été complètement refusés. 18% ont été empêchés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a eu l'accord et puis en fait, pouf, non. Et 10% ont été annulés. Donc voilà, donc il y a même pas 30% seulement.
J'imagine que les empêchés, les annulés sont particulièrement circonstanciés.
Tout à fait.
C'est écrit. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et l'Égypte n'en veut pas de ces réfugiés.
Non, alors moi j'ai quelques collègues qui ont pu être évacués vers l'Égypte, mais en fait ça coûte une fortune. La coordination, la paperasse administrative coûte une fortune, et donc en fait les Palestiniens les plus vulnérables en fait restent dans la bande de Gaza, restent coincés et ne peuvent pas sortir.
Mais en fait, le blocus, il joue aussi pour le côté égyptien, de toute façon.
Oui, bien sûr. Enfin, oui, et puis, je veux juste rappeler que la bande de Gaza est sous blocus depuis presque 16 ans. On parle depuis le 7 octobre, mais Gaza était déjà une catastrophe humanitaire avant le 7 octobre, avec 2,5 millions de Palestiniens, 60% qui dépendent de l'aide alimentaire pour pouvoir manger, 2/3 qui sont des réfugiés palestiniens, 2/3 de la population de Gaza qui sont réfugiés, qui dépendent de l'UNRWA, de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour avoir accès à l'éducation, à la santé, aux soins de santé primaire. C'est déjà une catastrophe humanitaire avec un taux de chômage exponentiel, 70% de taux de chômage pour les jeunes dans la bande de Gaza avant le 7 octobre. Moi, en 5 ans, Gaza était quand même bombardée en moyenne tous les 6 mois aussi. Enfin, faut pas l'oublier, c'était déjà une catastrophe humanitaire avant le 7 octobre.
Et
un blocus illégal, encore une fois, résolution des Nations Unies, un blocus illégal qu'on a laissé faire, qu'on a laissé perdurer.
Et Israël qui contrôlait les calories, je crois, que devait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus complètement de famine, mais tu vois, en même temps, ils ne mangent pas complètement. Voilà, donc c'était vraiment.
Tout à fait.
C'est pas uniquement une prison à ciel ouvert.
C'est exactement. Avec un blocus très dur. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec les pêcheurs et les fermiers. Les pêcheurs ne pouvaient pas faire entrer des pièces de rechange pour réparer les moteurs. On ne pouvait pas faire entrer certains fertilisants d'intrants pour les agriculteurs. On ne pouvait pas apporter certains matériaux parce qu'ils étaient sur une liste dite, entre guillemets, à double usage. On pouvait pas faire entrer de la fibre de verre pour réparer la coque des bateaux. Enfin, donc c'était toute une économie qui souffrait. Là, c'est la catastrophe. Mais je veux juste rappeler que ce blocus qui dure depuis plus de 15 ans avait un impact concret en fait sur le quotidien des Palestiniens en termes de calories, en termes de solutions, de moyens d'existence, de bien-être avec des jeunes Palestiniens qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza avec une densité de population énorme. C'est assez fou. Hein. Enfin, et encore une fois, c'était sous nos yeux. Et on a laissé faire, on a laissé ce blocus.
Tu dis que le... Excuse-moi.
Ouais, pardon, j'avais vu l'article de Mediapart.
Morgane.
Aussi, en même temps, où on laisse faire aussi les colons juifs, les ultra-orthodoxes qui... je suis désolé un peu d'État, mais qui se comportent comme dans des westerns, en fait, qui débarquent, qui tuent des feuilles, qui tuent des agriculteurs, parfois des familles, enfin plusieurs membres d'une famille, et qui rasent des cultures aussi, pour s'installer.
Ouais, mais merci. Moi, j'aime bien aussi ne pas fragmenter Gaza et Cisjordanie. Pour moi, c'est un territoire palestinien occupé, donc c'est bien de parler aussi de la Cisjordanie, de pas scinder. Le peuple palestinien est déjà assez fragmenté. Donc moi, j'essaie toujours de parler du territoire palestinien occupé, c'est un peuple palestinien avec des réfugiés palestiniens qui sont éparpillés partout au Moyen-Orient. C'est un territoire avec la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est incluse. Jérusalem-Est, c'est la Cisjordanie. Hein. Mmh. Et la bande de Gaza, tout ça occupé par une force occupante. C'est pas un conflit, hein, c'est une occupation illégale. Il n'y a pas deux forces égales, hein. Il n'y a pas d'État de Palestine, il n'y a pas d'armée palestinienne. C'est pas une guerre. Donc les mots ont leur importance aussi en droit international. Et en Cisjordanie, moi, mes collègues, quand je suis arrivé en 2019, ils me disaient, il y a 10 ans, les colons attaquaient la nuit, en petits groupes, les bergers, que en zone C. Là, ces dernières années, il y a des attaques coordonnées de colons qui, comme tu le dis, tirent à balles réelles, souvent protégées par l'armée israélienne. Ils attaquent de plus en plus en pleine journée. ils attaquent non plus seulement en zone C, qui est 60% de la Jordanie, ils attaquent de plus en plus en zone B. Il y a quelques jours, il y a une maison à Ouara. Ouara, c'est un village palestinien au sud de la ville de Naplouse, c'est en zone B. Donc zone B, c'est-à-dire sous contrôle administratif palestinien, sécuritaire israélien. La maison a été mise en feu, saccagée par des colons fous en pleine journée. Et donc c'est une impunité totale. Il y a plus de 1800 Palestiniens qui ont été déplacés de force depuis un an à cause de cette violence des colons qui attaquent de plus en plus. Donc plus de 1800 Palestiniens déplacés en un an, dont la moitié d'enfants, à cause de cette violence des colons qui est complètement folle. Moi, quand je suis arrivé en 2019, il y avait une attaque de colons en moyenne par jour. Et c'est une attaque de colons qui amenait des dégâts sur les maisons ou des blessés. Donc ça, c'était quand je suis arrivé en 2019. En 2021, on était passé déjà à 3 attaques de colons par jour. Et en 2024, on est à plus de 6 attaques de colons par jour en moyenne. Et quand je dis des attaques, c'est-à-dire que c'est encore une fois des attaques qui ont des dégâts concrets sur les structures, les maisons palestiniennes ou qui mènent à des blessés. Donc je ne parle même pas de tout ce qui est intimidation, agression. Il y a une normalisation de cette violence envers les communautés palestiniennes. Voilà. Et puis il y a eu des périodes de la récolte des olives, par exemple, dernièrement, il y a des pics de violence des colons, c'est assez fou.
Oui, c'était...
C'est un peu le western, quoi.
Une impunité totale. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de colons français.
Oui, hein, tout à fait, oui.
Là, c'est aussi un moyen d'agir. Hein. Les colonies sont illégales et je crois que la France, on a le deuxième contingent de colons français après les Américains.
Oui, alors, justement, enfin, c'est ce que tu dis, je vais revenir sur Gaza, si tu veux bien.
Oui, oui, bien sûr.
Sur deux points, tu dis que c'était 2/3 de réfugiés à Gaza.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait une population gazaoui qui existait, qui est vue multipliée par plusieurs fois la population gazaouite, et donc une économie gazaouite. Oui. Et moi, je me suis intéressé, je te dis, en préparant cette émission, je me suis intéressé à l'économie. Et donc, c'est effectivement ce que tu dis. Non seulement c'était le 7 octobre 2023, l'économie de Gaza était déjà bien en lambeaux, quasiment. Et donc, ce que je découvrais, c'est que il y a plusieurs opérations militaires israéliennes. En 2008, en 2022, en 2014, en 2021, en 2020. Je découvre que Rabbi Amoujabous, qui est un homme d'affaires palestinien, dit que tout le monde a bien compris la leçon. Les Israéliens ne veulent plus d'industrie dans le bande de Gaza. Donc, du coup, je découvre qu'il y a de l'industrie dans la bande de Gaza. Ils ont détruit tout ce qui ressemblait à un atelier ou à une usine. Cela peut paraître surprenant, mais il y avait une tradition de production dans la bande de Gaza qui remonte loin. Prenons l'industrie textile, par exemple. Pendant des années, des dizaines d'ateliers cousaient pour l'industrie israélienne du vêtement de Gaza, des pièces de Levi's et de Nike. Sortaient donc de la banque de Gaza pour des commanditaires israéliens, effectivement. Donc il y a toute une économie qui était détruite, mais de façon systématique. C'est ça qui semble intéressant, en fait. Il dit atelier, le moindre atelier, la moindre industrie. J'ai découvert qu'il y avait une industrie du marbre, qu'il y avait une extraction de marbre à Gaza, et tout ça est très précis. Et ensuite, non seulement ça, ben j'ai dit ensuite, dans la foulée logique de l'occupant, c'est les mosquées, c'est les lieux de culte, les lieux de culture, les écoles. Voilà, il y a quelque chose d'effrayant d'un point de vue systématique, je trouve, échappe à ce qu'on entend dans les médias mainstream dont je parlais tout à l'heure.
Oui.
On développe le côté humanitaire, c'est la moindre des choses quand même. On est à 46 000 ou 47 000 morts. Voilà. On oublie, d'une part, on continue de dire que le Hamas est une organisation terroriste. On oublie qu'il y avait un gouvernement élu en 2006 à Gaza. Un gouvernement donc parti Hamas avec notamment des idées que apparemment l'OLP n'avait plus manifestement et voilà, donc j'aimerais que tu dises des choses là-dessus, enfin
ouais, bah alors Ouais, deux points. D'abord, la Palestine, c'est un marché captif pour Israël. Quand on est en Cisjordanie, quand on est à la bande de Gaza, les mini-markets sont remplis de produits israéliens. Israël contrôle toutes les zones d'accès, tous les points d'entrée. Et donc, tout le marché palestinien, bande de Gaza, Cisjordanie occupée, est un marché captif pour Israël qui écoule ses produits. Moi, je me souviens, la première fois que je suis à la Gaza, que je vais au mini-market au bout de la rue du bureau, j'étais étonné de voir tous ces produits, etc. Et donc, moi, à chaque fois, je demandais... Minouane, Watani, est-ce que c'est local? Moi, je vais acheter des produits. En fait, non, ça vient des colonies illégales, ça vient d'Israël. C'est amené dans la bande de Gaza, c'est amené en Cisjordanie, donc c'est un marché captif. Et c'est une occupation, excusez-moi le terme, mais c'est une occupation, c'est tout bénef hein, pour la force occupante. La force occupante a une obligation en droit international de faciliter, de protéger la population occupée. Israël ne le fait pas, ne respecte pas le droit international, donc ce sont des ONG internationales qui sont financées avec nos impôts, qui viennent apporter l'aide humanitaire, l'accès aux soins, la sécurité alimentaire, etc. Donc Israël, ça ne lui coûte rien. Par contre, il bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée. Il donne des permis aux Palestiniens pour passer la ligne verte, aller travailler en Israël, dans les chantiers de construction. Enfin, l'économie israélienne marche grâce en fait, à ce marché captif palestinien et grâce à une main-d'œuvre hyper qualifiée qui contrôle les accès. On va donner quelques milliers de permis à des travailleurs palestiniens de Gaza. Ils vont sortir, ils vont passer la semaine en Israël, travailler sur les chantiers. Hop, le week-end, ils vont rentrer dans la bande de Gaza, consommer des produits israéliens. Donc, c'est vraiment, c'est assez hallucinant et on n'en parle pas beaucoup.
Avec des conditions de travail épouvantables. Ouais. Il me semble qu'Israël est le pays au monde, peut-être, qui a le plus d'accidents de travail. C'est pas assez répété. Parce que c'est une exploitation
exactement.
En brutalité, cette force de travail.
Oui, complètement. Et
la destruction conduit effectivement à l'importation de tout, en fait. Mmh. La destruction des terres, la destruction, l'empêchement de pêcher empêche effectivement, aboutit à une dépendance totale des Gazaouis de l'extérieur.
Ouais, ouais. Et l'aide humanitaire, donc, encore une fois, je rappelle, moi, en tant que travailleur humanitaire, j'ai travaillé en Afghanistan, j'ai travaillé au Liban, j'ai travaillé en Jordanie avec l'afflux de réfugiés syriens, etc. En Palestine, la crise humanitaire est générée par une occupation illégale. Moi, en tant que travailleur humanitaire, je ne devrais pas travailler en Palestine. Les Palestiniens ont des ressources, ils ont des arbres, ils ont des terres, ils ont une jeunesse qui est hyper bien éduquée. Il y a Birzeit, il y a University of Palestine, il y a Annaja University, Annaplus, il y a une jeunesse qui est... Il y a plein de ressources en Palestine. Donc moi, vraiment, ce qui m'a choqué rapidement, c'est de dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi une ONG internationale travaille en Palestine alors que la crise humanitaire est générée par une occupation qui est illégale? C'est quand même fou. Moi, j'ai aucun problème à fournir de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, on est financé par le centre de crise et de soutien, par des bailleurs institutionnels. Donc c'est de l'aide humanitaire qui est financée avec nos impôts. Faut le rappeler. Moi, j'ai aucun problème à payer mes impôts. Si je paye des impôts, c'est que je suis capable de payer des impôts. Par contre, que mes impôts servent à financer une aide humanitaire qui n'a pas lieu d'être, qui est détruite par une force occupante, qui est remplacée à grands coups d'aide humanitaire, qui est redétruite, et qui n'a pas de redevabilité de la force occupante vis-à-vis des financements publics, vis-à-vis de nos impôts, moi, là, ça m'embête, par contre. Et c'est pour ça que je dis c'est important de rappeler, comme tu disais, un peu cette économie. Et puis, le fait qu'encore une fois, c'est la force occupante qui, normalement, est responsable de protéger, de garantir l'accès aux soins de la population occupée. Israël ne le fait pas, c'est les ONG qui prennent la place, financées par nos impôts. Donc ça pose beaucoup de questions, en fait, aussi.
Didier, sur la... Bon, je laisse tomber la question sur la Cisjordanie, puisque tu as répondu, dans la mesure où c'est, pour toi, c'est les deux entités sont...
Ah oui, pour moi, il faut... C'est des dynamiques différentes, mais pour moi, c'est un territoire. Enfin, encore une fois, je dis c'est pour moi. Non, c'est les Nations Unies, c'est un territoire palestinien occupé.
Et alors, quand même, sur la Cisjordanie, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est que les colons s'y mettent. Ça a déjà été dit, quoi. Mais les blocs de béton pour empêcher l'accès aux champs, l'accès aux ateliers, etc. Il y a des portes métalliques aussi, j'ai lu ça, des portes qui...
Au checkpoint pour passer la ligne verte.
Ah oui, d'accord, c'est des portes-là, d'accord, c'était ça qu'il s'agissait. Oui, excuse-moi Didier.
Non, c'est pas grave. Et sur l'extension du conflit, donc, il y a quand même... Gaza, si je
Cisjordanie. Ensuite, il y a le Liban Sud. Il y a quand même la guerre contre le Hezbollah qui déstabilise un peu la région. On a vu que l'Iran ne pouvait plus vraiment soutenir Bachar al-Assad et la Syrie. Et on parle aussi d'une déstabilisation de l'Irak par voie de conséquence. Enfin, je veux dire, c'est tout toute la région du Moyen-Orient qui est bousculée. Comment tu vois les choses? Est-ce que ça peut encore empirer cette situation?
Alors, moi, du coup, je suis travailleur humanitaire, donc légitime que pour parler des besoins humanitaires. Mais en fait, encore une fois, pour moi, c'est une impunité qu'on a laissé faire. On parlait tout à l'heure de la loi de l'État-nation qui est passée en août 2018, où Israël, du coup, a passé cette loi d'État-nation qui dit on laisse une impunité durer. On laisse des civils souffrir. Moi, depuis 5 ans, tous les 6 mois, je suis au Quai d'Orsay, je suis à Genève, je suis à la Commission européenne, avec des partenaires palestiniens et israéliens, où on dit, en fait, attention, c'est une cocotte minute, là, ça va exploser. Ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on ne fait rien, on laisse faire. Ouais. Là, on voit bien où ça mène. J'ai pas la réponse à la question.
Non, parce qu'on dit souvent qu'il y a une volonté de Netanyahou d'en revenir au grand Israël biblique, quasiment. Quoi. Donc, est-ce que cette vision est pertinente, d'après toi?
Malheureusement, oui. Et je lisais dernièrement avec des collègues qui avaient, c'est pour la petite anecdote, qui avaient... des Israéliens qui répétaient en fait des chants, la chorale, pour pouvoir permettre l'ouverture, la reconstruction du temple. Et donc il y avait quand même, c'était assez presque surréaliste pour moi en disant ça. En fait, non, c'était très très sérieux. Il y a vraiment il y a tout un mouvement messianique assez fou qui est en marche.
Qui a les coudées franches aujourd'hui.
Ouais, exactement, complètement. Ça peut paraître parfois surréaliste, mais en fait, non, c'est...
Et comment tu expliques la faillite du droit international par rapport pour Israël, quoi, puisque ça ne s'applique pas, ils font ce qu'ils veulent, et tout le monde regarde ailleurs.
Je ne me l'explique pas. Et ce que les Palestiniens disent, c'est ça, en fait. Parfois, on dit, oui, la solution à un État, à deux États, etc. Les Palestiniens disent, en fait, on s'en fout. On veut juste que le droit international soit respecté. On veut juste exercer nos droits. On voit bien que quand il y a une occupation militaire illégale, comme c'est le cas en Ukraine, on connaît les leviers du droit international pour contrer cette occupation illégale. Et en fait, les Palestiniens disent, mais en fait, on veut simplement que le droit international s'applique. Et on voit que les leviers sont connus et sont activés contre une occupation illégale dans le cadre de l'Ukraine, et c'est pas le cas pour nous depuis des décennies. Donc,
que ce soit un État ou deux États, ils disent, ils s'en foutent, ils veulent juste vivre en paix, ils veulent
vivre en paix, juste pouvoir exercer leurs droits.
Oui, c'est ça qui est surprenant. Enfin, quand même, Israël envahit un pays, quoi. Et Macron réagit mollement parce que le Liban, il avait prévu de le sauver. Maintenant, il y a une double raison de le sauver, en l'occurrence. Mais non, je plaisante sur des trucs pas du tout drôles, mais c'est un vrai problème, quoi. Cette absence de réaction et cette uniformisation de la pensée occidentale, de faire corps derrière les États-Unis ou pour défendre Israël.
Avec cette idée que Israël est la pointe avancée de la démocratie dans l'océan de barbarie.
Je pense que ça fait rire, là, quand même.
C'est la fameuse phrase de Ehud Barak en 2001 qui avait dit Israël, c'est la villa dans la jungle. Ouais, bon, tout est dit. À partir de là, et je pense que c'est ça qui pèse beaucoup dans la représentation et qui explique pourquoi les États-Unis pensent que les Gazaouis ou les Palestiniens sont des Indiens. En fait, c'est les Indiens d'Amérique qu'ils ont exterminés. Ça n'a pas trop d'importance. Puisque c'est des barbares,
On rappelle que pour les Israéliens, ce sont des Arabes.
Oui, c'est ça, ils ne parlent pas de Palestine.
Le mot palestinien est plutôt gommé pour dire il y a de la place dans tout autour. Là, venez, il y a de la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, c'est ce que vous voulez. Vous allez rentrer chez vous, ça.
Oui, tu parlais des médias mainstream, etc. Et c'est vrai qu'on... c'est très facile d'entrer en contact avec les Palestiniens. Moi, je suis en contact tous les jours avec mes collègues à Gaza, en Cisjordanie. C'est assez facile, on n'entend pas la voix des Palestiniens. Moi, ça me rend fou quand il y a deux ans, Amnesty International, Human Rights Watch parle d'apartheid. Les Palestiniens, ça fait 20 ans. Ils disent que c'est un apartheid, personne ne les écoute. C'est quand même assez fou. Il faut qu'il y ait d'un seul coup, une organisation qui dise c'est un apartheid, ça y est, c'est un apartheid. Mais oui, mais en fait, allez sur le terrain, écoutez les Palestiniens.
Ça a été reconnu par les instances internationales. Il y a eu une.
Donc c'est assez fou.
La suite.
Oui, alors, Ludovic, parle-nous de Netanyahou.
Ah oui, Netanyahou, là, donc, est inquiété dans son propre pays. Comme vous l'aurez dit, il est inquiété par la CPI, on l'a dit, mais bon, je pense que malheureusement, ça n'aura sans doute pas d'effet, en tout cas dans l'immédiat. Et même s'il venait en France, apparemment, Macron a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une immunité le concernant, en violant totalement l'article 27 qui dit qu'il n'y a pas de négociation possible. Voilà, Et par ailleurs, il est inquiété aussi dans son propre pays. Est-ce que tu pourrais revenir un peu quels sont un peu les griefs qui lui sont reprochés par la cour israélienne?
Oui, alors il y a des soupçons de corruption déjà en ce moment. Et puis il y a aussi, depuis 2021, toute une réforme du système judiciaire également qui est remis en cause. Alors là, c'est un peu mis entre parenthèses avec ce qui se passe. Ce qui se passe à Gaza. Mais voilà, il y a quand même la société civile israélienne qui est mobilisée contre Netanyahou. Là aussi, on les entend pas beaucoup. Il y a du mouvement, il y a la société civile israélienne qui est aussi intimidée. Il y a toute une politique de délégitimisation de la société civile en Palestine, en Israël.
Il y a une attaque à l'endroit du journal Haaretz notamment. Ouais. Et oui, effectivement, oui. Après, je pense que les gens qui descendent dans la rue, je pense qu'ils n'en ont cure des Palestiniens. C'est-à-dire eux, ce qu'ils veulent, c'est que les otages reviennent, mais je pense qu'ils ne sont pas trop. A priori, la société israélienne est plutôt pour la guerre que mène Netanyahou. Ils n'ont pas, même la gauche. Alors, déjà, il ne reste plus beaucoup de gauche en Israël. Donc, je pense que ça, il faut le dire. Les gens qui descendent dans la rue pour dénoncer Netanyahou, c'est surtout par rapport à la question de la corruption. Pas par rapport à.
Non. Mais justement, la gauche israélienne, ce qu'on appelait les travaillistes, et même des mouvements comme la paix maintenant, il y avait quand même la société civile qui se mobilisait. Ouais. Et on n'entend plus du tout cette voix-là. On a l'impression que la politique israélienne, ça se résume à la droite et à l'extrême droite. Il n'y a plus de. La gauche est inaudible.
Oui. Oui, alors que. Je pense à des organisations comme B'Tselem, Yejdin, qui sont des organisations israéliennes qui font un super boulot, de défense des droits humains et de défense des droits des Palestiniens. Là aussi, en fait, on ne les entend pas. Il y a l'Union juive pour la paix, il y a une voix intéressante qu'on n'entend pas, il y a Tzedek aussi, qui était là justement jeudi soir. Au Kino. Il y a plein de voix. Et encore une fois, tu parlais des médias mainstream, en fait, ces voix-là, on pourrait les entendre, on pourrait leur donner la parole. Et on est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que du coup, on n'entend que Netanyahou, on invite Netanyahou au JT, dans les médias mainstream, etc. C'est quand même assez...
Mais est-ce qu'on ne les entend pas parce que même sont résignés, ou parce que la politique israélienne fait que, finalement, il n'y a plus de voix pour eux, quoi.
Alors, elles sont pas résignées, mais par contre, elles subissent beaucoup d'attaques, de délégitimisation, comme toute la société civile, dès qu'on veut parler de la défense des droits des Palestiniens. Donc, des comptes en banque qui sont gelés, ils sont intimidés, donc c'est dur, c'est très, 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 très dur, ils sont traqués. C'est difficile, mais ces voix existent et il y a plein d'informations et elles sont accessibles.
Il y a une opinion publique générale qui marche quand même avec Netanyahou, malheureusement.
Oui, alors il y a aussi ce qu'on disait là, les rapports. Il y a la Cour pénale internationale, mais aussi il y a les rapports à Amnesty International. Est-ce que tu as appris quelque chose dans ce rapport, ou est-ce que tu l'as lu déjà?
Oui, en fait, j'apprends toujours.
C'est partie de tes lectures.
Non, j'apprends toujours plein de choses. Donc non, c'est intéressant. Mais là aussi, en fait, il y a malheureusement rien de neuf. Moi, je crois que j'ai rarement été dans un pays où j'ai rencontré autant de gens des droits de l'hommiste. Les Palestiniens sont hyper bons. Vraiment, ils connaissent leurs droits. Connaissent le droit international. C'est fou. Et donc, tout ce qui est écrit, ça a été dit. Les Palestiniens le disent depuis longtemps. Je pense que c'est bien que ça soit formel. C'est bien que ça soit mis en avant par Amnesty, qui est quand même une force de frappe assez intéressante en termes de campagne, en termes d'information. Donc, c'est super. Mais en fait, l'apartheid, le nettoyage ethnique, l'histoire des Palestiniens, c'est des histoires de déplacement forcé et de dépossession et de vol de terre. Et là, à Gaza, on voit en fait qu'il n'y a aucun endroit sûr, que le droit international est bafoué, le droit humanitaire international est complètement bafoué, avec des hôpitaux qui sont ciblés. vraiment qui sont clairement ciblés, des écoles des Nations Unies, des lieux de culte, l'usine de désalinisation également. On voit que c'est systématique, on voit que c'est calculé, et c'est bien que ce rapport soit étoffé là-dessus, où il y a vraiment l'intention est clairement démontrée. Et ça, c'est important. Et voilà, j'espère que le droit va s'appliquer et que ça va vite se terminer, surtout pour les Palestiniens.
Oui, on peut effectivement l'espérer. Et puis on est quand même inquiet. Je suppose qu'Amnesty International va être traité d'antisémite, en principe. C'est déjà fait, non? L'ONU, déjà aussi, le tribunal. Il n'y a rien qui arrête, c'est ça le problème, il n'y a rien qui arrête. Celle-là était une folie, enfin, c'est une folie meurtrière en l'occurrence. Et puis, il y a Trump.
La question, c'est de savoir, là, avec l'élection de Trump, comment tu vois la suite? Alors, il y avait la petite blague, certes, Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt international, bon, ça l'empêchera pas d'aller en vacances à Mar-a-Lago, bon, là, Trump a eu... il n'est pas encore entré au bureau ovale. Pourtant, il a déjà promis de nommer un certain nombre de personnalités politiques quand même... qui nie clairement l'identité, enfin qui dit qu'il n'y a pas de Palestiniens en fait, qui sont reconnus comme des faucons, donc on peut s'attendre, enfin de ce côté-là, à ce qu'ils appuient la pression au niveau du conflit, mais d'un autre côté, bon, la guerre c'est pas forcément son truc, et il y a aussi derrière une hostilité claire envers l'Iran. Donc comment tu vois la suite avec Trump, et derrière est-ce que comment tu vois la suite de, enfin, l'intérêt de nos mobilisations à nous, sachant que, s'il y a un grand frère américain qui continue à appuyer la pression, à quoi bon de notre côté, quoi?
Ouais. Tu parles politique, là, attention, c'est un humanitaire.
Je lis pas dans les boules de cristal, mais oui, non, c'est hyper inquiétant, et je repense à la grande marche du retour dont je mentionnais, dont je parlais. La grande marche du retour a été initiée parce que Trump avait décidé de
déplacer
l'ambassade des États-Unis.
Vous m'expliquez la grande marche du retour un peu plus?
Oui, alors en fait, ça a commencé en 2018, de mémoire, et donc ça a été initié, donc c'est les Palestiniens qui ont manifesté de manière pacifique le long de la barrière avec Israël. Trump déplaçait l'ambassade des États-Unis, qui était jusque-là à Tel Aviv, à Jérusalem, en disant que Jérusalem était la capitale éternelle, indivisible, d'Israël et du peuple juif.
Ah d'accord,
donc,
c'est ça,
c'est
oui.
Ça. Et donc c'est ça qui a aussi initié cette marche du retour, avec des manifestations tous les vendredis.
Qui a été réprimé de manière féroce. Ils ont tiré dans les genoux délibérément. Ça a fait des centaines d'estropiés. Enfin, voilà.
C'était assez fou. Et puis derrière ça, les États-Unis ont reconnu l'annexion du Golan. Et puis ensuite, il y a eu des accords d'Abraham qui ont facilité la normalisation des relations avec plusieurs pays arabes. Et puis il y a aussi le fait que les colonies n'étaient plus forcément contraire au droit international aussi. Voilà. Ça a été pendant l'administration Trump. Ensuite, là, donc depuis quelques mois, Biden, par exemple, a poursuivi, en tout cas empêche l'entrée du territoire américain aux colons violents qui ont été identifiés, des colons américains qui vivent illégalement. Donc il y a une entrée d'entrée sur le territoire américain s'ils sont poursuivis pour des actes de violence envers les Palestiniens. Donc, avec l'administration Biden, l'ambassade est toujours à Jérusalem, hein, ça n'a pas changé, il n'est pas revenu là-dessus, malheureusement. Mais voilà, il y a eu en tout cas des choses qui ont été faites vers les colons extrémistes et violents, mais seulement il y a quelques mois, donc ça aurait pu être fait. C'est inquiétant, du coup, le retour de Trump, c'est inquiétant. Le fait aussi que j'ai vu les personnes qui ont commencé à nommer... Qui parle en termes bibliques, hein. Il parle de Judée, Samarie, etc. Et on ne parle pas du tout. Donc il ne parle pas du tout de la Cisjordanie occupée. Donc c'est très très inquiétant.
Ceci dit, il ne faut pas dédouaner la responsabilité de Biden. Oui. C'est Biden qui est le co-responsable du génocide. C'est
tout à fait.
Qui arme massivement. Donc, exactement.
On se fait bien de le rappeler.
Pour des raisons électoralistes aussi.
Oui, c'est aussi lié à une vision qu'il a depuis très longtemps. Il a été biberonné dans cette histoire d'Israël.
Et puis, on ne peut pas ne pas parler de du silence des pays arabes. Et ce n'est pas non plus d'hier. Ouais. Alors, comment ils sont perçus, comment ces silences sont perçus par les Gazaouis que tu te rencontrais, avec qui tu as pu parler de l'Arabie Saoudite, de gouvernement très riche, pas de peuple en l'occurrence, sachant que c'est aussi au risque de ces dirigeants arabes, puisqu'ils n'ont pas digéré la fin du printemps arabe, précisément. Mmh. Moi, je crois, j'ai vu aujourd'hui, il y a des. C'est pas le Gaza, mais les Jordaniens aident le nouveau pouvoir syrien aujourd'hui. Mais c'est les Jordaniens, le peuple. Et Hussein est obligé de suivre, quoi, quasiment. Hein. Donc il y a quelque chose qui là, doit être de nous interpeller.
Oui, puis tu fais bien de distinguer aussi les régimes et la population, la rue, qui est pour le peuple palestinien, la défense des droits des Palestiniens, et qui malheureusement n'est pas toujours suivi par ces régimes, je pense dans les pays du Golfe Persique particulièrement. Donc il y a beaucoup d'entraides qui se font au niveau local entre les communautés. Il y a des liens aussi tribaux parfois, donc il y a de l'entraide envers la Palestine. Donc ça, c'est important de pas sous-estimer quand même cette entraide, Et puis ensuite, pour se dédouaner, ils arrosent d'aide humanitaire, d'aide internationale, mais c'est ce qu'on fait aussi. Ce que les pays occidentaux font aussi. On prend pas d'action concrète, on prend pas d'action politique, mais par contre, on va déverser et arroser d'aide humanitaire pour se dédouaner. Et ça, les Palestiniens l'ont toujours condamné depuis des années vis-à-vis des pays arabes, mais aussi des pays occidentaux qui pourraient, pour le coup, avoir un impact et qui ne font rien. Donc, c'est assez désespérant. Moi, ce qui me réjouit quand même, c'est la jeunesse dans les universités françaises, que je vois, cette jeunesse qui se mobilise pour la Palestine, pour la défense des droits.
Et qui, en même temps, est réprimée et disqualifiée, avec...
Alors, notre université a travaillé avec Al-Quds et Birsait, notamment, dans un projet où il y avait... d'un copain, Daniel Poisson, que tu connais, du CCFD, j'en étais. Voilà, pas du CCFD, mais de ce contact avec, de ce partenariat avec les universités. Ouais. Merci en tout cas de ta venue, voilà quelque chose. J'espère que les auditeurs et auditrices ont pu apprécier, ils ont dû apprécier, c'est pas possible autrement, ton intervention au micro.
Okay.
C'est rien de vous présenter John Lennon.
Raison.
Et du coup, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campus.com et DAB+. Et on revient du coup au direct avec les actualités d'Attaque.
Et c'est moi qui ouvre le feu avec Zucman. Donc la taxe Zucman, ce qui manque, ce n'est pas l'argent, c'est le courage politique. La proposition de taxe Zucman, c'est-à-dire 2% sur la fortune des ultra-riches, c'est-à-dire 0,01% de la population, a été votée à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est de passer devant le Sénat après. Là, ça ne marche plus du tout. Le Sénat a fait montre de son esprit parfaitement réactionnaire, comme l'a signalé dans un article du Monde Thomas Piketty. Une taxe qui pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros, alors qu'on en cherche 40. Bravo, monsieur le Premier ministre. Vous êtes encore une fois à côté de la plaque, mais ça fait quand même un bon moment que vous êtes à côté de la plaque. On parle de Cassen, Didier.
Oui, Bernard Cassen, donc très connu à Attaque. Donc, c'était le rédacteur en chef du Monde diplomatique à l'époque de l'appel, enfin de l'éditorial de Ignacio Ramonet invitant à créer justement Attaque. Donc, Bernard Cassen a cofondé l'association avec des syndicats, des associations. Il a présidé l'association entre 1998 et 2002, laissant l'image d'un homme de conviction, rigoureux, intransigeant, pas toujours facile, mais enfin, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement estimable. On va le regretter, et bon, le conseil scientifique lui rend hommage sur le site d'Attaque Nationale. Vous tapez Attaque sur un moteur de recherche et vous aurez le site.
Absolument. Israël-Iran, pendant la conférence, les bombardements continuent. Attaque parle de mascarade à propos de la conférence internationale pour le règlement pacifique de la question de la Palestine. Mascarade qui n'aura pas lieu car Netanyahou en a décidé ainsi en bombardant les sites nucléaires iraniens en assassinant les ingénieurs du nucléaire. Rien que ça. Encore une défaite de la diplomatie internationale et une victoire qu'on espère provisoire pour le gouvernement d'extrême droite israélien.
Le TCE, donc on en a déjà parlé ici, dans un long texte paru sur le site d'Attaque Nationale, auquel je vous renvoie une nouvelle fois, donc l'association revient sur la lutte victorieuse contre le TCE, le traité donc...
Constitutionnel pour l'Europe.
D'accord, il y a 20 ans, donc bon, ça a été un grand moment d'éducation populaire, on l'a dit, et on s'en est fait l'écho dans notre émission le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, mais en tout cas c'est normal que l'association Attaque y revienne, parce que c'était quand même une de ses grandes victoires.
Oui, on a été la cheville ouvrière quand même de ce mouvement populaire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La TVA sociale, ça c'est dans les tuyaux. Le gouvernement Bérou revient avec la TVA sociale, soit un financement de la Sécu sur la base de la consommation plutôt que sur le travail. Sauf que la TVA est un impôt le plus injuste qui soit et que Bernard Arnault paye autant de TVA sur sa baguette de pain ou son paquet de nouilles, mange des nouilles, oui.
On peut le penser.
Autant que vous et moi. D'autres solutions sont possibles que le gouvernement ne veut pas étudier, bien sûr, avec sa fameuse politique de l'offre qui n'est que le paravent de la prédation capitaliste dans toute sa splendeur.
Alors BDS, donc l'opération boycott des investissements, sanctions à l'égard d'Israël. Donc l'opération BDS continue en lien avec la FPS, avec dans la période une nouvelle cible qui est le Crédit Agricole, donc la banque des communautés rurales, enfin la banque, une banque tranquille apparemment. Après la BNP qui était plus connue dans son rôle de soutien à Israël. Donc le rôle de la Banque des Ruraux est tout aussi coupable dans le financement des colonies illégales israéliennes en Palestine. On le sait peu, mais ça vaut quand même de... Enfin, ça va mieux en le disant.
Absolument, oui. Le Forum social mondial des intersections s'est tenu le 29 mai à Montréal, au Canada bien sûr. Une délégation d'Attaque était présente et il s'agissait de coordonner les luttes anticapitalistes avec les luttes intersectionnelles, intersection de perspectives, de savoir et d'espoir. Une bonne nouvelle à l'heure où les forums sociaux mondiaux ou européens n'existaient quasiment plus.
On va passer au local, donc avec une information sur le Mercosur, donc un débat sur le Mercosur qui était toujours remis au calendrier grec. Donc, il a enfin pu se tenir le 21 mai dernier à Fâche-Thémenil, à la mairie de Fâche-Thémenil. Et on remercie nos partenaires de Fâche-Thémenil en commun, enfin d'autres qui étaient avec nous. L'occasion de revenir avec Morvan Burel, donc de Solidaire-Douane, et enfin qui a écrit sur au monde diplomatique sur les aberrations écologiques et sociales que contient ce traité, comme sur les nouveaux visages de la mondialisation face aux politiques tarifaires de Trump.
Ouais, c'était une soirée quand même très intéressante. Marche Gaza, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les trois comités locaux sont actifs dans la marche Paris-Bruxelles pour Gaza. L'initiative est portée par la LDH, mais ATTAC sera présente aussi bien pour l'étape lilloise le 20 juin que pour celle de Roubaix aujourd'hui même, avec meeting, prise de parole et rassemblement festif.
Tout ça à la gare de Roubaix à 14h30.
Et également, il y a aussi un rassemblement mensuel à Roubaix, Roubaix Grand Place. Donc le prochain, ce sera le jeudi 26 juin à 18h.
Entendu.
Pour la Palestine.
Alors, les 80 ans de la Sécu, il y a un débat public très intéressant qui est important dans la période sur la qualité sociale. Donc c'était le 13 juin, la semaine dernière, avec l'économiste de la santé Victor Duchesne. Donc une soirée réussie avec un stand d'attaque qui était plutôt bien achalandé. Donc, encore une fois, cette émission du 21 juin devrait d'ailleurs être consacrée aux 80 ans de la Sécu. Et on s'excuse encore auprès des intervenants pressentis, donc Bernard Tepper et André Delcroix, de devoir à nouveau le remettre à la rentrée.
Transport, un débat public sur les mobilités le 25 juin à Baraka, Roubaix, avec des représentants des différentes listes aux municipales qui nous diront ce qu'ils ont l'intention de faire en matière de transport public, de mobilité aussi de gratuité. Le collectif Transport Gratuit Roubaix, dont ATTAC est l'animatrice principale, sera présente et attentif aux réponses.
Enfin, il y a le film, projection du film Sauf qui peut, donc, qui est un film sur ce qui est devenu la médecine dans ce pays. Donc le film sera projeté au Méliès de Villeneuve-d'Ascq le 2 juillet à 20h et sera suivi par un débat sur la santé. Donc il y aura Arnaud Chiche de l'association Notre Santé en Danger, Monique Latsou et votre serviteur qui animeront le... Monique Latsou du choix, mais enfin, elle n'est pas là spécialement pour le choix, et qui animeront le débat qui marquera la création d'un groupe de travail sur la santé au sein de la section de Lille de la LDH. Donc, ça serait important d'y être et ça sera intéressant.
En effet.
Très bien. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà.
Eh bien, nous allons vous souhaiter un excellent week-end en nous excusant encore une fois platement pour cette question qui est indépendante de votre volonté, j'en dirai pas plus. Donc, un bon week-end, prenez soin de vous et nous allons peut-être nous lancer dans une émission en juillet, on ne sait pas encore ça.
Non, mais en tout cas, on prépare une émission sur la presse pas pareille.
Voilà, et on définira la presse pas pareille, ce qui n'est pas une mince affaire.
Oui.
Bon week-end et à bientôt sur Radio Campus.
À bientôt.